des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillée dès le mardi 9 avril.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand vous pensez Amnesty International, vous pensez bien sûr à ces campagnes pour faire libérer des prisonniers politiques torturés dans des prisons un petit peu partout à travers le monde, dénoncer des dictatures, des tortionnaires partout sur la planète, d'où le nom de Amnesty International. Mais depuis un petit moment maintenant, Amnesty International s'intéresse aussi à ce qui se passe au Québec, par exemple avec son opposition à la loi 21 que Amnesty International qualifie de discriminatoire, mais aussi avec cette campagne publicitaire qui a commencé la semaine dernière, une campagne publicitaire pour nous faire réaliser au Québec à quel point on est ignorant et à quel point on pratique du racisme systémique. En tout cas, c'est ce que prétend Amnesty International. On va parler avec sa directrice générale, France-Isabelle Langlois. Bonjour Madame Langlois.
Bonjour Madame Durocher.
Écoutez, Madame Langlois, vous avez fait paraître la semaine dernière dans Le Devoir une lettre qui s'intitule, bon c'est clair, Amnesty International contre la loi 21. Première ou deuxième phrase de votre lettre, vous dites la chose suivante, je veux vraiment vous citer mot à mot. « Bien que la loi sur la laïcité prétende proscrire le port des signes religieux en général, reconnaissons que le véritable objet d'opprobre est ici le voile islamique et ses dérivés. » Fin de la citation. C'est faux, Madame Langlois. La loi 21 ne vise aucun signe religieux en particulier. Elle vise tous les signes religieux. Pourquoi affirmez-vous ça dans votre lettre au devoir?
C'est vrai que la loi en tant que telle proscrit l'ensemble des mm-hmm. signes religieux. Cela étant dit, ce qui a mené à cette loi-là, c'est toutes les discussions que nous avons eues depuis le début des années 2000, sinon depuis la fin des années 90, autour de la religion musulmane et autour du port du voile islamique, qui est un objet confrontant pour l'ensemble d'entre nous. Et il y a rien de mal à le dire, cela étant dit. Il y a rien de mal à le questionner, à poser mm-hmm. ce genre de questions-là. Mais c'est ces discussions-là, on peut penser à Hérouville, on peut penser et à la charte des valeurs et tout, effectivement, pour ne pas stigmatiser ou avoir l'air de stigmatiser l'ensemble des religions, on a inclus tout le monde. Mais ce qui dérange et les messages qu'on reçoit d'opposition à notre position, les messages qu'on reçoit des gens qui ont tout à fait le droit d'ailleurs qui défendent la loi 21. Les propos de ces personnes-là ne tournent qu'autour de la religion musulmane et du voile, qui est perçu comme un objet absolu d'oppression.
Mais c'est parce que vous faites une affirmation qui est fausse dans votre lettre, Madame Langlois. Vous dites « Reconnaissons que le véritable objet d'opprobre oui. est ici le voile islamique ». Vous dites ça comme si c'était une évidence et le fait que des gens... vous dites, en fait, que ce qui est à l'origine de la loi 21 ou la réaction des gens à la loi 21... Mais vous faites un amalgame avec ce qu'il y a dans la loi 21. Pourquoi vous n'avez pas dit clairement la loi 21 s'en prend autant à la kippa juive, au turban sikh, à la croix catholique qu'au voile musulman? C'est une affirmation fausse que vous faites dans votre lettre, Madame Langlois.
Écoutez, c'est votre point de vue, puis vous avez tout à fait le droit à votre point de vue.
Mais c'est pas une question de point de vue, c'est la question de savoir ce qu'il y a dans la loi 21 ou pas. Est-ce que dans la loi 21, on vise spécifiquement le voile islamique, oui ou non, Madame Langlois?
On vise l'ensemble des signes religieux, mais il y a des articles qui ne concernent que le voile.
Oui.
Et ce que je dis, est-ce que le sens de ma phrase, ce que je dis, c'est que ce qui a mené là, ce qui nous dérange, c'est la religion musulmane et c'est le voile islamique. Ce qui dérange le plus la population, ce qui est le plus difficile à accepter pour nous, c'est le voile islamique. Et on a le droit de le dire et à partir du moment où on le dit, on peut en débattre et on peut en discuter.
Madame Langlois, vous connaissez l'expression? Vous connaissez l'expression « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ». Quand on veut s'opposer à la loi 21, on fait dire à la loi 21 des choses qui ne sont pas dans la loi 21. Par exemple, un peu plus loin dans votre texte, vous dites « La loi 21 ne fait qu'accentuer le risque que des femmes soient isolées dans la sphère privée parce qu'elles ne peuvent plus enseigner ou exercer une profession dite en autorité. » Vous dites que la loi 21, à cause de la loi 21, des femmes ne peuvent plus enseigner. Encore une fois, Madame Langlois, c'est faux. La loi 21 n'empêche personne de travailler. La loi 21 demande aux gens, dans l'exercice de leur travail, de renoncer à leurs signes religieux. Donc, quand vous dites que la loi 21 empêche les femmes d'enseigner, encore une fois, désolée de vous le dire avec tout le respect, c'est une fausseté.
Alors, je vais vous faire valoir mon point de vue.
Allez-y.
Vous me laissez parler. Donc, alors, si on part du principe que certaines femmes, ça se peut, peuvent être obligées d'une façon ou d'une autre dans leur sphère privée de porter le voile, elles ne pourront pas continuer à enseigner et enlever le voile. Et à partir de ce moment-là, elles sont mises devant un choix qui est celui de se retirer du marché du travail et donc d'être recluses à la maison. Si on part du principe qui est avancé par plusieurs qui défendent la loi 21, du fait que les femmes qui portent le voile le portent nécessairement sous oppression.
Bon, je vous ai laissé terminer.
Et donc, oui. Je suis obligée dans mon entourage de porter le voile et que si j'enlève le voile, je vais être bannie de ma communauté et qu'il y a une loi qui m'empêche de travailler en portant le voile, à ce moment-là, je suis mise devant un choix qui est impossible, mais je n'aurai d'autre choix que de me retirer du milieu du travail.
Mais en tant qu'Amnesty International, vous devriez...
ces personnes-là dans notre société, dans notre environnement, et de continuer à avoir un dialogue avec ces personnes.
Mais au lieu de dénoncer une loi qui dit « vous devez enlever votre signe religieux au travail », ne devriez-vous pas plutôt dénoncer la communauté qui force une femme à choisir entre son travail et son voile, mais vous le faites pas avec la même énergie que vous le faites à dénoncer cette loi-là. C'est comme une, vous avez comme inversé le fardeau de la preuve.
D'une part, c'est pas vrai parce qu'on mène beaucoup de campagnes sur. En fait, ce qu'on défend, c'est le libre choix des femmes. Alors, d'une part, et encore une fois, nous, notre mission, c'est la mise en œuvre des droits de la personne tels que définis par les outils internationaux. Les outils internationaux limitent les droits, notamment le droit à l'expression religieuse, sous certains critères. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne répond pas à ces critères-là. Et de facto, elle brime la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse d'une religion de ces personnes-là qui portent des signes religieux qu'on ne veut pas voir. Donc, selon le droit international, la loi, elle est discriminatoire, elle ne répond pas aux obligations. Par ailleurs, les États, dont l'État québécois, ont l'obligation de veiller à ce que personne, et donc aucune femme, musulmane ou autre, soit contrainte de porter ou de ne pas porter un quelconque attribut. Et ce qu'on dit, c'est que la loi 21 ne fait pas ça.
Oui,
elle n'est
mais
pas
en train
de s'assurer que les femmes au Québec de confession musulmane, par exemple, ou d'une autre confession, ne sont pas en train de subir une quelconque oppression ou une quelconque pression. Elle ne veille pas à ça. Elle ne fait que interdire et donc elle ne fait que limiter les choix qui s'offrent aux femmes sans les habiliter à faire leur propre choix et assurer leur propre choix.
La clause orpheline qui fait en sorte que quiconque travaille déjà dans la fonction publique, dans les positions d'autorité, et donc a le droit de conserver son signe religieux, le fait que ce soit uniquement dans les heures de travail, le fait que ce soit uniquement certaines fonctions de la fonction publique, tout ça, ça ne vous apparaît pas des éléments modérés de la loi 21?
On ne dit pas qu'il n'y a pas des choses qui sont que tout est faux ou que tout est mal dans la loi 21. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une discrimination de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont visées Et on dit surtout que les femmes sont doublement discriminées par cette loi-là.
Mais les hommes portent le turban, les hommes portent la kippa, et pourtant, ces signes religieux-là sont traités au même titre par la loi 21. Donc, quand vous dites que la loi 21 discrimine envers les femmes...
C'est vrai. Moi, ce que je vous dis, c'est que s'il n'y avait pas le voile islamique, la kirpa juive ne nous a jamais dérangés. Il n'y aurait pas de loi 21 si ce n'était pas de la religion musulmane.
Mais je vous oppose que c'est faux. Je vous oppose que c'est faux, Madame Langlois, parce que la laïcité au Québec...
On n'est pas du même avis.
Oui, mais discutons-en. La laïcité au Québec, ça a commencé quand? Ça a commencé quand on a séparé la religion et l'État, quand on a demandé aux professeurs qui portaient la cornette et qui portaient le col romain de mettre ça de côté, quand on a enlevé le crucifix dans les salles de classe, quand on a séparé la religion et l'État. Donc, c'est pas venu avec le voile musulman. Donc, même votre interprétation historique de la charte des valeurs du Parti québécois et de la loi 21, je trouve, est erroné parce que ça ne le replace pas dans le contexte québécois qui en est un où on veut séparer la religion et l'État, et que ça part à son origine justement de séparer la religion catholique. Donc, c'est pas le voile qui est visé, Madame Langlois.
Alors, là, on parle de deux choses. Moi, je parle du fait que dans la loi sur la laïcité, il y a des articles qui vise l'interdiction de port religieux par des personnes. La laïcité, c'est autre chose. Alors, soyez assurés qu'Amnesty International ne s'oppose pas du tout à la laïcité. En fait, ça fait même pas partie de notre radar. La laïcité n'est pas en soi un droit humain, c'est un système politique qui vise à d'organisation sociétale qui vise à s'assurer qu'aucune église, et non pas les personnes, aucune église, qu'elle soit catholique, et évidemment, au départ, dans la société québécoise, on parlait surtout, sinon exclusivement, de l'Église catholique. Juive ou musulmane, ou peu importe, ne fasse d'ingérence dans les affaires de l'État. Alors, le processus, ça fait longtemps, depuis les années 60, que le Québec a entamé un processus de laïcisation de la société, lequel s'est pas mal complété à partir du moment où on a déconfessionnalisé les écoles dans les années 90. Cela étant dit, il y a encore des crucifix dans nos écoles, il y a encore des écoles qui portent des noms religieux, et la cornette et tout ça, c'est les personnes religieuses elles-mêmes qui ont décidé de ne plus les porter. Il n'y a jamais eu de loi pour empêcher ces personnes-là de porter la cornette ou le col romain. Donc, la laïcité, c'est pas une question de personne, c'est une question d'église et d'organisation du système sociétal, et de s'assurer que les églises, que la religion n'interfère pas avec le politique. Alors, ces deux choses sont complètement différentes, la laïcité et le port de signes religieux par certains individus.
Mais si on enlève le crucifix et que, parallèlement à ça, le professeur porte une grosse croix dans le cou, on est en train de transférer simplement. Puis, un dernier argument, parce qu'on va passer aussi à votre campagne contre le racisme systémique, c'est que si je suis professeur et que je me présente en classe avec un T-shirt Parti québécois ou un T-shirt des Hells Angels, je vais me faire dire par mon syndicat que je n'ai pas le droit, parce que je n'ai pas le droit d'afficher mes opinions politiques. Donc, de la même façon, on n'affiche pas ses opinions religieuses. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'État et que l'État est laïque. Bon. Passons au deuxième sujet. Vous avez entamé la semaine dernière donc une campagne pour contrer le racisme systémique. On va entendre un extrait de la campagne vidéo, donc avec moult violons.
Merci pour l'entrevue. J'avais hâte de vous rencontrer. Ne m'ignorez pas, s'il vous plaît. Tout le monde le fait. J'ai toutes les qualités requises pour le poste.
Merci de me rencontrer. J'adore l'appartement. Non, 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 ne m'ignorez pas.
Non, 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 ne m'ignorez pas. S'il vous plaît, tout le monde le fait.
Ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. Êtes-vous en train de dire que tout le monde au Québec fait du racisme systémique, Madame Langlois, avec cette campagne?
Non, bien sûr que non. Je pense que les gens sont plus comprennent très bien le message. C'est des faits avérés. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a plusieurs rapports des commissions des droits de la personne, etc., qui sont faits. Les personnes noires, autochtones et racisées ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés à se trouver un emploi ou à se louer un logement. Du simple fait de leur nom, souvent,
Mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, Madame Langlois. Ça s'appelle une généralité, là.
C'est le sentiment de ces personnes-là. Je pense qu'on peut faire preuve d'humilité et les écouter. Puis à un certain moment, quand on dépose 100 CV et qu'il y en a, mettons, un qui retient notre CV sur les 100, je pense que la personne peut dire que tout le monde le refuse.
Mais c'est parce que vous cautionnez ça.
Dire ça et c'est un fait. C'est très difficile pour les personnes. Ça ne veut pas dire que c'est partout pareil, que tous les employeurs sont comme ça. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes sont fondamentalement racistes. C'est pas ça que ça dit. Mais il y a vraiment un biais. C'est vraiment, vraiment difficile. Et oui, la majorité des personnes noires, autochtones et racisées ont de la difficulté, mais une très grande difficulté, à se trouver un emploi, ne serait-ce que d'obtenir une entrevue pour avoir un
emploi. Mais Mme Langlois...
Ils ont de la difficulté à se louer un logement. C'est un fait.
Madame...
Et je pense qu'il faut en prendre conscience.
Madame Langlois, vous savez que les mots ont de l'importance. Quand on entend à nos radios, sur nos pages Facebook, un message qui dit « Tout le monde le fait ». Tout le monde le fait. Ça, vous cautionnez ça. Amnesty International envoie un message aux Québécois. Tout le monde le fait. Tout le monde fait de la discrimination. Vous comprenez que ça peut heurter un peu. Il y a un autre, dans la publicité qu'on vient d'entendre, il y a différentes affirmations qui apparaissent à l'écran. Il y en a une que j'ai notée parce que ça passe très vite, mais j'ai noté le mot à mot. Ça dit la chose suivante. Les personnes racisées sont largement exclus des médias, des productions culturelles et artistiques. Je vais vous lire une petite liste, Madame Langlois. Fabrice Ville, Vanessa Destiné, Sarah May, Samian, Kevin Raphaël, Eddie King, Virginie Coussa, Will Prosper, Webster, Elie Sapi, Michel Jean, Mickey Guerrier, Didier Lucien, Varda Etienne, Michel Mambara, Nabila Ben Youssef, Dalila Awada, Céline Galipo, Sophie Fouron, Frédéric Pierre, Vidomir Normil, Félix Auger Aliassim, Mariana Mazza, Alexandra Diaz, Sébastien Diaz, Régine Laurent, Jean Pascal, Noémie Mercier, Nadège Saint-Philippe, Azeb Valdegorgis, Sonia Benezra, Isabelle Racicot, Yolande James, Rebecca McConnell, Valérie Michaela Bain, Dominique Anglade, Maca Cotto, Harold Fortin, Karima Brick, Boukard Diouf, Anthony Cavana, Rachid Badouri, Mehdi Boussaïdan, Pierre-Yves Laure, Grégory Charles, Normand Brathwaite, Sugar Sammy. Pouvez-vous encore affirmer que les personnes racisées sont largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques, Madame Langlois?
La liste que vous citez, parce que une bonne partie de ces gens-là sont justement des ambassadeurs de la campagne d'Amnesty contre le racisme et le racisme systémique. Vous citez Isabelle Racicot qui sort un documentaire sur l'existence du racisme systémique. Et elle parle d'elle-même dans ce documentaire-là. Vous parlez
de votre phrase.
C'est un thème. Même ces personnes-là, Madame Durocher, même ces personnes-là vont vous dire qu'elles ont été victimes de racisme systémique.
C'est pas de ça que je vous parle. Je vous dis, vous affirmez dans votre vidéo.
C'est ça dont vous me parlez.
Oui, les personnes racisées sont largement exclues des médias, des productions culturelles et artistiques.
Alors même
exclues.
Oui, et même celles qui ont réussi à avoir accès vont vous dire qu'elles ont eu de la difficulté, qu'elles ont rencontré des écueils importants et qu'elles ont été victimes et de racisme et de racisme systémique.
Bon, on ne sera pas d'accord aujourd'hui, Madame Langlois, parce que cette campagne-là...
Ah, bien sûr qu'on ne sera pas d'accord. Mais cela étant dit, je suis très heureuse de la discussion que nous avons eue, puis poursuivons-la.
Oui, poursuivons-là, mais je vous le dis, là, ce ton-là de se faire dire « tout le monde le fait avec des violons derrière », même si le propos est là, il y a un malaise qu'il doit être nommé et qui doit être reconnu, cette façon-là de culpabiliser en disant « tout le monde le fait », en faisant des affirmations aussi générales et si peu réalistes de dire les personnes racisées sont largement exclues des médias. Je trouve que ça n'aide pas à avoir un dialogue serein de vivre ensemble. C'est mon opinion. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin.
Merci à vous.
Merci France-Isabelle Langlois, qui est directrice générale d'Amnesty International Canada francophone.